Dieu a dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Et là sera mes yeux, et là sera mon cœur. N'est-ce pas une promesse extraordinaire que de réaliser un seul instant que ce que Dieu veut, ah si mon peuple, ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse nous être dans son cœur et son cœur avec nous. Et là, je sens une allégresse qui élève vos âmes, un chant de victoire, une aspiration spirituelle nouvelle. Non mais, est-ce qu'on réalise qu'on a un Dieu qui ne veut pas être là dans le ciel, là, une sorte de microcosme céleste, et nous on serait là dans notre microcosme terrestre, qui aurait entre les deux une sorte de gros asthme nébuleux qui nous empêcherait d'avoir une relation? Non, tout au contraire, ce que Dieu veut. Il dit, je voudrais tellement que mon peuple puisse m'accueillir et que tout mon cœur soit là avec lui. C'est extraordinaire. Notre cœur, il est gros comment? Il est gros comme ça. Mais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il est amour. C'est sa nature même. Et il dit, et là sera mon cœur, là sera mes yeux. Là, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Ah, le soupir de Dieu, si mon peuple. Si seulement. Alors, ça fait plusieurs semaines que nous travaillons dessus. Je veux bien mettre la diapo, s'il te plaît, Françoise. Et la semaine dernière, nous étions arrêtés sur cette notion, sur des fausses conceptions que nous pourrions avoir justement de ce renouvellement spirituel. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, évidemment. Pour ceux qui le veulent, peuvent l'écouter sur le site de l'Église. On peut juste se rappeler ces deux principes-là qui sont importants. Les miracles ne sont pas une fin en soi. Merci pour les miracles, Seigneur. Et on en veut, on en a besoin. On a besoin que le Seigneur guérisse les corps. On a besoin que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. On a besoin des miracles. On a besoin du surnaturel. L'Église a besoin du surnaturel de Dieu. Et j'ai envie de dire que le monde a besoin du surnaturel de Dieu. Donc on en a besoin. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'on a vu plusieurs exemples bibliques et d'autres. On s'est aperçu qu'au travers d'une bénédiction, cela ne les a pas sauvés. Ça n'a pas touché leur âme. Ça n'a pas nourri l'être intérieur. Alors, merci Seigneur, mais gardons les bonnes priorités. Rappelons-nous aussi que le renouvellement spirituel que le Seigneur nous accordera, parce que c'est son désir, ne se substitue pas à la sanctification. La sanctification, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos efforts, ce sont les moyens que nous mettons en œuvre pour chercher à plaire à Dieu. Et bien souvent, c'est bien pour ça qu'il nous dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas chuter. Parce que aussi haut est-ce que le Seigneur nous fera élever, nous fera connaître des choses spirituelles, il y aura toujours le diable qui sera derrière pour essayer de nous faire chuter. Donc, ne croyons pas non plus que parce qu'on sera renouvelé spirituellement, que tout sera fait. Non, il n'y a rien qui est acquis avec le Seigneur. Il faudra toujours travailler à la sanctification et toujours être vigilant. Ce matin, le thème qui va être abordé ce matin, ça va être justement... Quelle attente pouvons-nous avoir dans le renouvellement spirituel? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que, en fait, quand on dit « Seigneur, je vais être renouvelé par le Saint-Esprit, Seigneur, fais-nous connaître une nouvelle Pentecôte », d'accord, ok, très bien. Mais qu'est-ce que l'on est en droit d'attendre? C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai voulu un peu déblayer toutes les fausses conceptions. Mais en quoi est-ce qu'on est... On peut en être en attente. Et ça va être important, on va revenir ça dans quel dimanche, mais un dimanche matin, on va essayer de faire un temps pratique, au sens où on va essayer de prendre, vous savez, une fois on avait fait un temps d'échange comme ça, mais là on va plus axer sur le temps de la prière, sur les moyens pratiques de la prière. Comment renouveler notre vie de prière intime, quels sont les moyens que Dieu nous donne. Et parce que, quelque part, si on sait quelles sont les attentes, alors on peut s'approcher de Dieu avec assurance, avec certitude. Plusieurs, quand vous allez à la boulangerie, vous y allez pour quoi? Pour acheter du pain. Voilà, vous y allez avec confiance, avec assurance. Bon, vous vous dépêchez, si vous sentez que c'est l'heure de fermeture, vous allez vous dépêcher parce que peut-être qu'il n'y aura plus de pain. Mais vous savez que devant la boulangère, elle ne va pas vous dire « Ah, oh, je suis désolé, monsieur, je suis désolé, madame, je n'ai plus que du roast beef. » Bah non, c'est... non, une boulangerie, c'est pour du pain. On s'y attend, il y a une attente. Et on sait qu'on va dans ce lieu pour recevoir du pain. Avec le Seigneur, quand on aspire à un renouvellement spirituel, il est aussi important de se dire, mais qu'est-ce que je peux véritablement recevoir de lui? Parce que ce sera aussi une disposition pour notre cœur de dire, bon, qu'est-ce que je peux vraiment vivre dans le Seigneur? Mais ce sera aussi, lorsqu'il y aura ces moments de doute, d'incompréhension, aussi un affermissement, une certitude sur laquelle on pourra s'approcher de Dieu en disant, Seigneur, ça fait partie des choses que tu nous as promis. Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 13. Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, plusieurs ont 60 stades, ce qui représente à peu près 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur répondit Jésus. Ils lui répondirent, « Mais ce qui est arrivé ?» au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que des femmes d'entre nous... Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Alors oui, ils ont trouvé les choses telles que les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils se pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon !» Et ils racontèrent ce que leur avait lorsqu'il était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Amen. La première caractéristique, la première attente que nous pouvons avoir d'un renouvellement spirituel, c'est un cœur qui brûle. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils étaient tout penauds. Ils étaient tout tristes. Ils étaient tout flagada. Ils avaient perdu tout enthousiasme. Tellement là, tellement pris dans leurs soucis, dans leurs inquiétudes, qu'ils étaient même plus capables de reconnaître le roi des rois à côté d'eux. Personnellement, j'ai l'impression que l'église de Jésus-Christ est souvent dans le même état. Le Seigneur est au milieu d'elle, mais nous sommes tellement remplis de pensées, d'infirmité spirituelle et morale, de soucis, qu'on n'est même plus capable d'exalter, de louer le Seigneur. Pourtant, le Seigneur est juste là. Il est là, c'est un fait, c'est une réalité. Mais le cœur est tellement pris par tant de soucis, par tant d'incrédulité, parce qu'ils auraient pu déjà se réjouir de ce qu'on leur avait dit, qu'il est vivant, il est ressuscité, il est apparu. Mais non, eux, dans leur incrédulité, et on se rappelle les quatre barrages qui nous empêchent de connaître ces fleuves d'eau vive. Ils étaient empêchés de reconnaître le Seigneur Jésus. Le Seigneur passe du temps avec eux. Et c'est une chose indispensable que de passer du temps avec Jésus. Et là, presque sans s'en rendre compte, le feu revient. La chaleur revient. Ils sont là, ils sont enthousiasmés, ils entendent la parole. Ça réveille quelque chose dans leur cœur. Alors ils sont tellement contents de rester avec nous. Et s'il y a une chose dont nous pouvons nous attendre dans un réveil spirituel, dans un renouvellement spirituel, sur une nouvelle Pentecôte, c'est ce cœur qui retrouve ce pétillement, cet enthousiasme, cet espoir, cette motivation, cette espérance, cette énergie. Il y a quelque chose qui reprend vie au-dedans d'eux. Et nous allons voir que toutes les caractéristiques qui vont suivre découlent de ça. Dans la société dans laquelle nous sommes toujours dans une logique de fruits, de résultats, de nombres, de production, de compétition, d'évaluation. Combien on a fait ? C'est la logique du monde. La logique de Dieu n'est pas du tout celle-ci. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux nombres, aux chiffres. Bien sûr, il veut que tous les hommes soient sauvés, tous, même les 6 milliards et quelques, il le veut. Mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les regards, il regarde au cœur. Et si nous, nous sommes des chrétiens qui évaluons notre vie spirituelle à des chiffres, à ce qui est quantifiable, à des nombres, à des compétitions, à des compétences, à ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, on se trompe. Le réveil spirituel, ce n'est pas du chiffre, le réveil spirituel, c'est des cœurs qui brûlent. Amen. Et ça, dans notre esprit, ça doit être mais clair, net, précis. Seigneur, je veux ce renouvellement. Eh bien, recherchez, demandez au Seigneur, Seigneur, je veux que ce cœur brûle. Parce que ce sera ça le démarrage de tout le reste. Le deuxième effet, la deuxième bonne attente, ça va être la consécration à l'œuvre de Dieu. La consécration, ça fait partie des effets de ce renouvellement spirituel. Il y a soudainement, dans celui qui est renouvelé, qui est stimulé par l'œuvre de Dieu, un désir de considérer l'œuvre de Dieu comme une priorité. Regardez cette histoire. Ils sont là, ils sont en train de marcher. Ils sont à 12 km de Jérusalem. Jérusalem, vous y allez comment? 12 km, vous les faites comment? À pied, en vélo ou en voiture?
En voiture.
En voiture. Pourquoi vous n'y allez pas à pied?
Trop long.
Oh, c'est trop long, hein, c'est fatigant. Ok, on va revoir ça dans deux secondes. Voilà que ces disciples discutent tout peu. Puis ils leur passent, ils disent à ce monsieur qu'ils fréquentent, en fait, ils ne savaient même pas que c'était Jésus, quoi. Ils disent, mais c'est tellement intéressant ce que tu racontes. Viens, arrête à la maison. En plus, ils disent, tu vois, ça commence à être tard et tout, la nuit tombe, viens à la maison. N'empêche qu'une fois qu'ils ont eu le cœur qui était réveillé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas dit, oh, il est déjà tard, on va attendre demain, ça va attendre, on va voir les disciples, on va retourner à l'église, on va leur dire la bonne nouvelle, mais ça peut attendre demain. Ça pouvait pas attendre demain. Le soir même, nous dit l'Écriture, ils ont refait 12 km. Comment? À pied. Alors soit ils sont fous, soit ils sont hystériques, soit il y a un cœur qui brûle et qui leur redonne cette motivation, cette consécration à l'œuvre de Dieu. Ils auraient très bien pu dire, oh, il commence à faire tard, il n'y a rien qui presse, hein, faut pas exagérer, hein, l'œuvre de Dieu, ça peut attendre. Hein. Oh, attends, On peut être chrétien et puissant, hein. C'est bon, chacun, hein. Chacun son rythme, hein. Ça peut attendre dimanche prochain, la réunion.
Mais eux, le soir même, ils avaient envie de retrouver les frères pour partager cette bonne nouvelle, pour louer le Seigneur ensemble, pour s'exhorter les uns les autres. La consécration à l'œuvre de Dieu, c'est une marque. C'est une marque de ce réveil spirituel. C'est un effet. Soudainement, l'œuvre de Dieu devient une priorité. On réalise que c'est tellement important de voir les âmes être sauvées. On réalise qu'il y a une véritable puissance dans la prière. On réalise que c'est une nécessité de se rassembler pour se nourrir, pour prier ensemble. Il y a dans la vie non plus un intérêt pour les choses de la terre, pour le métier, pour le travail, pour le compte en banque, pour l'époux, pour l'épouse. Tout ça, c'est très important. Mais au-dessus de tout ça, il va y avoir comme un intérêt prioritaire pour le royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus le dira à plusieurs endroits. Il dira que celui qui préfère son époux, son épouse, ses enfants, n'est pas propre au royaume de Dieu. On pourrait dire, c'est chaud ça. C'est pas qu'il est en train de dénigrer, mais il est en train de placer une question de priorité dans le cœur du chrétien. Oui, il y a premièrement quoi ? Le royaume de Dieu et sa justice. Il y a une priorité. Ça ne veut pas dire qu'il va négliger le reste. Mais dans son objectif, dans sa mentalité, il y a cette préoccupation première. Vous savez de quoi se préoccupent les riches toujours ? Hein ? De l'argent. Les riches ne parlent que d'argent, c'est leur seule préoccupation. Eh bien, les chrétiens, leur préoccupation, mais c'est le royaume de Dieu. Ils aiment s'entretenir des choses de Dieu. Ils aiment l'intérêt. Ils ont de l'intérêt pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour les projets d'évangélisation, pour savoir qu'est-ce qu'eux-mêmes pourraient faire. Et c'est ça leur motivation. Il n'est pas rare. Et il faut que ça dure. Que t'en entends, non ? Dans les jeunes convertis, dans les premiers convertis, il y a un moment comme une sorte d'instabilité. Parce que oui, ils aiment leur mari, oui, ils aiment leur travail, oui, ils aiment leurs épouses, oui, ils aiment leurs enfants, oui, ils aiment le foot, oui, ils aiment leurs activités. Mais dans leur cœur, ils sont en train de se dire, oh, mais qu'est-ce que c'est vanité tout ça, j'aimerais tellement être toujours dans l'œuvre de Dieu. Alors il faut leur dire, ouais, c'est normal. Mais on temporise, on équilibre, il faut faire chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Il faut bien faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais c'est tout à fait normal et c'est un bon signe. Et quand on dit Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur, on veut cette vision, on veut ce renouvellement spirituel, il y aura forcément cette consécration à l'œuvre de Dieu qui viendra dans votre cœur. Forcément. Forcément. La troisième caractéristique, c'est l'attachement à la parole de Dieu. La parole et l'esprit sont indissociables. La parole nourrit la foi et l'esprit. Et l'esprit et la foi nous alimentent dans la lecture de la parole de Dieu. C'est indissociable. Peu de parole, peu d'esprit. Et peu d'esprit nous emmène dans une incompréhension de la parole de Dieu, dans une stérilité de la parole de Dieu. On la lit, mais bon, c'est indissociable. Plus on lit la parole de Dieu, plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on la médite, et plus dans notre vie spirituelle, dans notre intimité avec le Seigneur, il y a des choses qui sont révélées. Il y a un embellissement spirituel, une stimulation spirituelle. Et moi, on prend le temps également d'entretenir cette dimension spirituelle. Et plus la parole de Dieu nous paraît... je la connais, quoi. Elle nous parle moins. Elle nous stimule moins. La parole et l'esprit sont indissociables. Si vous faites attention, après la Pentecôte, il nous est dit un peu comment fonctionnaient les chrétiens. Eh bien, la première chose qui nous est parlée, ils se réunissaient chaque jour et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Là où il y a un renouvellement spirituel, il y a un attachement à la parole. Mais oui, parce qu'on a envie de mieux la connaître. Et plus on la connaît, et plus elle nous parle. Il y a un attachement à la parole de Dieu parce que on aime la lire. On aime la lire. C'est pas un bouquin d'école. C'est pas un roman. Mais il y a quelque chose qui qui nourrit, qui, c'est une délectation de notre âme. Le psaume 119, verset 16 dit « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point tes paroles. Je fais mes délices de ta parole. » J'aime les gâteaux au chocolat, j'aime le poulet rôti, j'aime ma femme. Mais la parole de Dieu m'apporte un délice que qu'aucune chose de ces choses ne peuvent apporter. Et ça, ça fait partie de ce renouvellement spirituel, le délice de la parole. Il n'est pas question de la lire pour la lire, mais comme il le dit lui-même, je n'oublie point ta parole. C'est le fait de la lire et de la méditer, de la serrer sur notre cœur, de pouvoir aller au travail avec un verset dans notre esprit, de peut-être avoir quelque chose là, peut-être même une interrogation, Seigneur, mais explique-moi ce passage, je ne comprends pas. Mais c'est extraordinaire d'avoir ce genre de choses que l'on porte dans notre cœur parce que tôt ou tard, le Seigneur nous l'enseigne. Et on est content, on a l'impression qu'on a découvert un trésor inestimable, n'est-ce pas? C'est aussi un autre verset de la Bible d'ailleurs. J'ai trouvé un trésor inestimable lorsque le psalmiste parle de la parole de Dieu. Un attachement à la parole de Dieu avec une disposition. Alors c'est Job qui dit ça et c'est tellement juste. C'est Job 23, verset 12, il dit « Je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche. » Je fais plier ma volonté. Et ça, c'est caractéristique de ceux qui ont un cœur renouvelé, de ceux qui s'attendent à ce que le Seigneur agisse. Et bien, vous allez voir, le Seigneur va faire une sorte d'inclinaison dans votre cœur. Est-ce que vous allez lire, vous allez dire « Mais Seigneur, c'est ça que je veux vivre !» Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Seigneur, apprends-moi, aide-moi. Mais votre cœur ne va pas être ballotté seulement à des considérations vagues de la vie spirituelle. Mais votre cœur va dire, mais c'est ça que je veux vivre, Seigneur. C'est ce verset-là, c'est cette vérité spirituelle. Et c'est là qu'on s'aperçoit que même un verset peut bouleverser toute une existence, toute une mentalité. L'autre attente que nous pouvons avoir dans ce renouvellement spirituel, c'est, on pourrait presque dire une évidence, c'est une sensibilité à l'Esprit. Une sensibilité au Saint-Esprit. Vous avez des téléphones portables? Tu peux, je pense, faire descendre. Vous avez tous des téléphones portables? Ils sont éteints ou allumés, là? Bon, vous inquiétez pas, c'est pas une question piège, hein. Mais ceux qui, comme moi, comme ça vous êtes rassurés, ont leur téléphone allumé, vous savez que votre téléphone est en train de travailler là. Il fait quoi le téléphone en ce moment?
Il reste en veille.
Il reste en veille, mais pour faire quoi?
Au cas où il y a un appel.
Et justement, comment est-ce qu'il peut savoir qu'il va y avoir un appel?
Il capte les ondes.
Le téléphone, sans cesse, il a... Il est où le satellite? Elle est où l'onde? Vous voyez l'image que je veux nous donner? C'est que nous devrions tous être branchés sur le GSM divin. Être toujours... Il est où le Saint-Esprit? Seigneur, t'es où? Pour justement, le jour où il y a un appel. Ah, je suis là! Je suis disponible! Je suis pas hors réseau! Être sensible à l'Esprit. Toujours avoir cette disponibilité, Seigneur. Parle-moi! Où qu'on soit, chez la boulangère! À la maison, en discussion, à l'église, où qu'on soit. Ça fait partie des attentes que l'on peut avoir dans ce renouvellement spirituel. Avoir cette disposition de cœur, non pas cette prise de tête, mais avoir cette sensibilité à dire, Seigneur, je veux toujours être là, je veux toujours être sensible, je veux toujours pouvoir être réceptif aux orientations de ton esprit. Il y en a comme ça. On aura certainement l'occasion... Je pense à la semaine prochaine, c'est un personnage extraordinaire. J'aime un monsieur qui s'appelle Élie. Et on verra la semaine prochaine justement parce que Élie a véritablement expérimenté cette réalité entre les fausses conceptions que l'on peut avoir au travers de la puissance de Dieu et les réalise les vraies attentes spirituelles. On verra ça, je pense, la semaine prochaine parce que dans ce chapitre-là, il y a tant d'enrichissement et un déclic. Mais Élie, un moment, on le verra la semaine prochaine seulement. Il est sensible. Il est sensible à la voix du Seigneur. Il a besoin d'être réconforté, d'être renouvelé par le Seigneur. Et le Seigneur va dire, allez, je vais te parler, va là-bas, J'y vais, je t'y retrouve, je vais passer. Et Élie est là dans sa grotte. Il sait que le Seigneur va passer. Et là, tremblement de terre, feu, vent violent. Et lui, il a reconnu que le Seigneur n'était pas là-dedans. Oh, attends, mais le Dieu, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des prodiges. Il l'a reconnu dans le murmure doux et léger. Voilà un homme de Dieu qui était connecté à la sensibilité du Seigneur. Il ne s'est pas laissé emporter à ce qu'il voyait, à ce qu'on pouvait ressentir au tremblement, au spectaculaire. Il était un homme qui avait cette sensibilité spirituelle. Il savait discerner lorsque le Seigneur était là ou pas. Il était là, non pas sensible à l'événementiel, mais il était sensible à l'esprit du Seigneur. Paul, vous rendez compte? Un jour, il va écrire... Est-ce que j'ai la référence? Oui, Actes, chapitre 16, verset 6. Il va dire, et là, faut, soit il est fou, ou alors il est vraiment inspiré. Il va dire qu'il a été empêché d'annoncer la parole de Dieu. Par qui? Par le Saint-Esprit. Non, Paul, là, t'exagères, t'es fou. Tu prends tes désirs pour des réalités. En fait, t'avais les pétoches, tu voulais pas y aller, c'est tout. Dis pas que c'est Dieu. Mais si, empêché par le Saint-Esprit d'aller annoncer la parole de Dieu. Ça, c'est être sensible. C'est pas faire ce que nous, on pense que Dieu veut qu'il fasse. T'entends, on est comme ça, on pense que ce que Dieu veut faire. On pense que ce que Dieu veut faire. Mais il faut être comme des GSM, être toujours là, comme des téléphones, toujours. Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je comprends pas tout, je sais pas à quel appel tu me donnes là, mais je l'accepte parce que je sais que ça vient de toi. Être sensible à l'esprit, justement, pour être disponible à exercer les dons spirituels. Être sensible et disponible pour exercer les dons spirituels. Y a-t-il ici des gens qui seraient susceptibles? Et là, je vous demande un vote à main levée. Est-ce qu'il y aurait ici quelqu'un qui se dirait oui, par rapport à tout ce qu'on a déjà vu, je suis le temple du Saint-Esprit, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'aime le Seigneur, je recherche sa face. Est-ce qu'il y aurait ici des gens qui seraient susceptibles d'être un instrument de bénédiction pour communiquer un don spirituel? Un, deux, trois... 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 7. Alors les 7, vous avez raison. Les autres, vous avez tort, parce que vous êtes aussi des téléphones capables de recevoir le message et capables de le communiquer. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Par contre, il ne faut pas être éteint. Alors à l'église, on coupe le portable. Mais spirituellement, nous devons toujours être en éveil. Seigneur, Seigneur. Quand on est à la maison, dis Seigneur, s'il te plaît. J'aimerais bien recevoir un SMS de ta part pour que je puisse le communiquer à l'église. Un small message, hein, parce que t'entends les prophéties qui durent un quart d'heure, on a du mal à saisir tout. Seigneur, j'aimerais bien recevoir une direction de ta part pour un frère, pour une sœur, une parole de connaissance. Seigneur, j'aimerais bien que tu me mettes à cœur de prier peut-être pour telle personne qui est malade parce que je sens que tu pourrais le guérir. Seigneur, s'il te plaît, lorsque je parle avec à quelqu'un, même avec ma boulangère, donne-moi une parole de sagesse. Donne-moi même la connaissance de sa situation, pour que quand j'aille la voir, je puisse avoir une parole. Je serai peut-être maladroit, mais c'est pas grave si je suis maladroit, parce que je parlerai de quelque chose qui est dans son cœur. Et ça la touchera. Nous sommes tous des instruments de bénédiction. Il suffit qu'on s'entraîne à toujours être sur le réseau, dire « Seigneur, s'il te plaît, communique-moi quelque chose de ta part. » Ne soyons pas éteints. Soyons sensibles pour communiquer les dons spirituels. Cette sensibilité spirituelle nous emmènera également dans notre vie personnelle Parce que le Seigneur nous emmène dans, des temps de prière. Vous serez peut-être là à faire nos activités, à faire vos activités. Et puis quelque chose va vous presser là au-dedans de vous. Mais c'est bon signe, mes bien-aimés. C'est une bonne maladie. C'est bizarre, j'ai envie de prier. Et je sais pas ce qu'il y a. Il y a un travail au-dedans de moi. Mais laissez votre vaisselle, laissez ce que vous êtes en train de faire. Prenez le temps. Si le Seigneur vous pousse à prier, prenez ce temps. Peut-être ça va durer 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être une heure, ça qu'importe. Mais si nous sommes sensibles à la voix de l'Esprit, il nous arrivera ce genre d'accident. Comprenez que j'utilise un message un peu démesuré par rapport à la situation. Mais quelque chose qui va effectivement nous surprendre. Mais prenez de ces moments, peut-être même que ce sera dans les moments où vous seriez justement un peu dans des périodes difficiles dans la prière. Vous êtes là, c'est pas une période facile, mais justement si vous êtes sensible au Saint-Esprit, le Seigneur vous donnera là comme une partie de grâce et il vous stimulera à la prière. Et ça va vous redonner de l'alimentation pour reprendre une vie de prière. Mais être sensible, Seigneur, parle-moi s'il te plaît, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me stimules, j'ai besoin que tu me donnes ce feu, j'ai besoin d'être sensible à la présence de ton esprit. Sensible à la présence du Saint-Esprit pour discerner les moyens et tous les moyens que Dieu utilise pour nous parler. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Il dit même qu'il plonge l'homme dans le sommeil et que dans son sommeil, il lui envoie des songes pour l'avertir, pour le prévenir. Mais qui envoie ça, dites-moi? Alors, ne commencez pas à analyser tous vos rêves. Vous savez, les rêves qui viennent du Seigneur, ça nous marque un peu. C'est pas des rêves comme les autres. Il y a quelque chose qui nous interpelle, justement. Mais ne soyons pas la deuxième partie du verset. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons attentifs, ne soyons pas vers la fin du verset. Mais l'homme n'y prend pas garde. Prenons-y garde. N'est-ce pas justement un de ces passages que Pierre va utiliser à la Pentecôte? Il va rappeler la promesse qui se trouve en Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos jeunes gens auront des songes et vos vivières des visions. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais ça fait partie des aspirations, des attentes que l'on peut avoir du Seigneur. Dieu peut nous parler de plein de manières différentes, par une parole dans la prédication, une parole dans la lecture de la Bible, par le dialogue avec un frère, avec une sœur. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous parler. Il peut faire passer, on disait ça en réunion de maison récemment, il peut faire passer un camion sur lequel il y a un mot qui va faire déclic dans notre esprit. Un collègue de travail qui va nous envoyer un mail. Et là, c'est bizarre, mais pourquoi il parle de ça lui-là? Dieu peut se servir de tout. J'ai envie de dire de n'importe quoi. Il peut aussi nous envoyer un songe, un rêve. Et si nous sommes sensibles à l'esprit, alors nous serons dirigés, orientés, prévenus. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'avais mis ça quelque part aussi. Mais si nous sommes également sensibles au Saint-Esprit, nous allons nous apercevoir que Dieu prépare nos cœurs. Ça, c'est une chose extraordinaire à vivre aussi. C'est que Dieu est un Dieu qui prépare toutes choses. On voit toujours dans la Bible que Dieu prépare les temps, il prépare les circonstances, il prépare les gens pour leur service, pour leur ministère, il prépare l'environnement. Il n'y a rien que Dieu fasse qui soit dans la précipitation. Dieu prépare toujours les choses. Et si nous sommes sensibles à cette vie avec le Seigneur, vous allez vous apercevoir que Dieu prépare nos cœurs. Je ne vais pas dire quand il prépare, je ne vais pas dire qu'il va nous dire à l'avance ce qui va se passer. Mais c'est comme s'il conditionnait notre cœur à vivre ou à ne pas vivre des choses. On sent que Dieu nous prépare, soit à des événements, soit à des nouvelles, soit à des circonstances. Mais Dieu prépare nos cœurs. Et ça, c'est bon. C'est bon de sentir que quand on est renouvelé dans le Saint-Esprit, quand on a cette vie avec le Seigneur, on n'est pas là comme un petit bonhomme perdu au milieu de nulle part, mais on sent que Dieu est là à côté de nous et qu'il nous parle, qu'il nous stimule, qu'il nous prépare, qu'il nous interpelle, qu'il nous appelle à la prière, mais qu'il est aussi celui qui prépare notre cœur, notre âme. Ce qui fait qu'il y a circonstances comme ça où on comprend pas trop, on dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, d'ordinaire je suis pas comme ça. On est comme une sorte d'attente et après on s'aperçoit, on entend une nouvelle, il arrive une circonstance, mais notre cœur est préparé, on n'est pas dominé par l'émotion, on n'est pas dominé par déstabilisé, parce que c'est comme si le Seigneur nous avait préparé. C'est tellement important et c'est des choses auxquelles on doit s'attendre à être sensible à la vie de l'Esprit. Une autre caractéristique, je voudrais dire même peut-être un des fruits de ce renouvellement spirituel, c'est la diapo d'après, c'est la paix et la grâce que le Seigneur communique. Éphésiens chapitre 4, 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est lié à cette pensée que Dieu prépare notre cœur. Mais non seulement il prépare notre cœur, mais ça fait partie des attentes que nous devons avoir quand on dit « Seigneur, renouvelle-moi dans cette puissance, dans cette action de l'Esprit. Seigneur, donne-moi cette paix, donne-moi cette sérénité, donne-moi cette profondeur. » Quand les angoisses viennent, quand les soucis viennent, nous avons droit de dire « Seigneur, tu m'as promis ta paix, tu m'as promis ta profondeur. Tu m'as promis cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » C'est-à-dire, toute intelligence, au-delà de ce qu'on peut considérer, au-delà des circonstances, au-delà des angoisses qui sont légitimes, au-delà de tout ça, Seigneur, je sais que tu peux me donner ta paix. Ça fait partie des signes. Une grâce particulière. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Esdras. Esdras était cet homme consacré. Ezra, c'était cet homme qui était attaché à la parole de Dieu. Et il nous est dit de lui que la bonne main de son Dieu était avec lui. Ezra, chapitre 7, verset 9. La bonne main de son Dieu était avec lui. Il y a une chose que l'on peut attendre du Seigneur. Ce n'est pas, comme on l'a dit la semaine dernière, qu'il n'y ait plus de problèmes. On aura toujours des problèmes, des préoccupations, des soucis. Ça fait partie de la vie. Mais ce que l'on peut attendre, c'est que dans nos soucis, dans nos préoccupations, il y ait la bonne main du Seigneur. Dieu n'a jamais empêché Daniel d'aller dans la fosse aux lions. Il y est allé dans la fosse aux lions. Il a bien senti l'odeur des fauves. Peut-être qu'il a bien senti la laine là même. Mais le Seigneur était avec lui quand même. Et ses compagnons, pareil, quand ils étaient dans la fournaise, ils y sont bien allés, oui ou non? Et le Seigneur était aussi avec eux. La bonne main du Seigneur est avec nous. On connaîtra, mes bien-aimés, nous sommes dans un monde injuste et l'injustice va nous toucher. Mais ce que l'on peut vivre, ce que l'on peut réclamer, Seigneur, je veux que ta grâce soit avec moi. Je veux que ta bonne main soit avec moi. Alors elle sera associée à cette paix. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Cette paix dans les moments délicats. Une onction, une grâce particulière, un accompagnement. Peut-être que on sera comme dans un désert et Dieu nous mettra comme des sortes d'oasis sur notre chemin. Mais le Seigneur l'a promis. Le Seigneur l'a promis. Parce que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourtant, le contexte est hyper défavorable. Mais il est dans la paix. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, qu'est-ce qui tient une houlette et un bâton? C'est la main du berger. Et on verra la même chose. Lorsqu'on passera par des moments difficiles qui sont inévitables, on connaîtra cette paix, cette non-crainte, parce que la bonne main du Seigneur sera là. De temps en temps, il nous pousse un peu à des limites, on aimerait attendre qu'il intervienne avant, n'est-ce pas? Parce qu'on est tellement faible. Mais n'empêche que, toutes les fois que le Seigneur nous permet de connaître ces moments-là, ça nous fortifie dans la foi après. Parce que au moment où on a l'impression qu'on est là, c'est plus possible! Ah, le Seigneur, il intervient! Et la prochaine fois qu'il arrive une situation délicate, on est tranquille parce qu'on a déjà vu la bonne main du Seigneur intervenir. Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et en plus, c'est un pédagogue. L'autre caractéristique du renouvellement spirituel, c'est la joie et la simplicité de cœur. Il est impensable de considérer que l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, avec tout ce qu'on dit, un cœur qui brûle, une consécration pour l'œuvre de Dieu qui est renouvelée, un attachement à la parole, une sensibilité à l'esprit, une paix, une joie qui dépasse les temps et les circonstances, il est impossible que, si tout ça vient du Seigneur, qu'il n'y ait pas aussi un amour et un attachement pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs. C'est impossible. Impossible. D'ailleurs, Dieu dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on reconnaîtra quoi ? Que Dieu est véritablement au milieu de vous. C'est à l'amour manifesté. Tu ne veux pas dire « Ouais, je t'aime » et puis... Mais c'est à l'amour que les gens verront que Dieu est véritablement au milieu de nous. Si on se rappelle encore, Actes chapitre 2, je crois que c'est le verset 42, où il nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ah oui, c'est des hommes très spirituels. Et ? Dans quoi ? La recherche des dons spirituels ? Non. Dans la communion fraternelle. Il est impensable, mes bien-aimés, d'être à la fois renouvelé spirituellement avec tout ce qu'on vient de dire et on dirait et être complètement indifférent à la communion fraternelle. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors c'est... Il y a un problème spirituel. Et d'ailleurs, il finit par disparaître. D'ailleurs, ça se voit. Dès que quelqu'un a un problème spirituel dans sa vie, dès qu'il ne vit plus tout ce qu'on vient de dire avant, et bien c'est la communion fraternelle qui en prend le coup. Direct. La relation n'est plus la même. La simplicité de cœur n'est plus la même. On se met un petit peu plus en recul. C'est indéniable. Ce n'est pas qu'on est des adhérents, des adeptes, des gourous. On n'en est pas à ça, mes bien-aimés. Mais quand on aime Dieu, quand l'Esprit de Dieu brûle dans notre cœur, on est comme ces deux disciples. Qu'importe l'heure, on retourne à Jérusalem. On se dépêche. On va retrouver les frères et les sœurs. On va se réjouir ensemble. Il y a un désir, il y a un amour. Il y a... une chaleur, il y a une joie, une simplicité. Et il nous est dit dans la suite d'acte 2 qu'ils se retrouvaient dans la maison et qu'ils prenaient ensemble leur repas avec joie et simplicité de cœur. Ah, ça paraît pas très spirituel, hein. Oh, la puissance du Saint-Esprit, les dons, les miracles. Oui, amen. Mais tout ça, ce sont les conséquences de tout ça. Parce que plus on a ce cœur qui brûle, plus on est consacré à l'œuvre de Dieu, plus on est attaché à l'œuvre de Dieu, plus le Saint-Esprit, on y sera sensible, plus il y aura cette paix, cette joie dans notre propre vie qui nous empêchera de nous laisser plomber par les choses de la terre, plus il y aura cette joie, cette simplicité au milieu de nous. Mais c'est tout ça qui permettra au Saint-Esprit d'agir librement. Plus j'aimerai mon frère et ma sœur, plus je prierai pour sa guérison avec foi et puissance. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'exaucement. Sans amour, il n'y a rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais si je suis le temple du Saint-Esprit, ah bah alors il y a quoi ? Il y a une erreur quelque part. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'on se laisse renouveler par le Saint-Esprit, alors on connaîtra l'amour. Sinon, ce n'est pas l'Esprit qui agit en nous. C'est un légalisme. C'est peut-être des conceptions que l'on se fait de l'action du Saint-Esprit. Mais l'action du Saint-Esprit nous amènera toujours, 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 toujours sur le chemin de l'amour. Et un amour, je le dis encore, je le répète, manifesté. Si mon frère, ma soeur ne sait pas que je l'aime, c'est que je ne l'aime pas comme il faut. Mon frère, ma soeur doit sentir que je l'aime. Je présente d'ailleurs peut-être mes excuses. Si quelqu'un ici se dit « Mais moi, je ne me sens pas aimé de mon pasteur. » Alors, je te présente mes excuses. Et je dis devant Dieu, « Seigneur, donne-moi plus d'amour pour mon frère. » Mais je veux être réaliste avec moi-même et avec vous. Aimer, ce n'est pas dire à la personne « Je l'aime. » C'est lui faire sentir qu'on l'aime. C'est prendre du temps avec elle. C'est l'estimer pour ce qu'elle est. S'il n'y a pas ça, on se trompe sur la nature même de l'amour. Et l'amour nous emmènera toujours vers cette simplicité et cette louange que nous aurons. Les attentes que nous avons par rapport au Saint-Esprit, j'espère que nous l'avons bien réalisé. Ce n'est pas les miracles et les prodiges. Les miracles et les prodiges seront toujours les conséquences du renouvellement spirituel. et on doit y aspirer. Mais il faut que on ait une expression en français, on dit on met pas les charrues avant les bœufs, c'est ça? Hein? La charrue avant les bœufs, merci. Mais c'est pareil dans la vie spirituelle. C'est ça que nous devons rechercher. Seigneur, c'est ta présence, c'est que tu brûles dans mon cœur. Je veux être consacré à ton œuvre. Et on verra la semaine prochaine l'exemple d'Élie, l'histoire d'Élie avec l'autel qui brûle, etc. Là. Prenez le temps de lire tout ce passage. Après, il est persécuté. Après, il prie Dieu. Prenez le temps. On va lire la semaine prochaine toute cette histoire. Et on va décortiquer les attentes d'Élie. Les moyens qu'il espérait mettre en œuvre. Et puis après, ce travail intérieur qu'il y a dans la vie d'Élie. Seigneur, fais brûler notre cœur. Si le cœur brûle, laissons-le grandir. Laissons-le. Évidemment, et c'était les clauses qu'on s'était dites avant, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on dit, Seigneur, je vais être renouvelé? Mais c'est ça qu'on va vivre. Alors si dans ce programme, des cœurs se disent non, bon non, en fait, je pensais que ça allait être mieux que ça, moi, je pensais que... Alors vous serez déçus. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a à attendre et qu'est-ce qu'il n'y a pas à attendre du renouvellement spirituel. Je n'ose faire un vote, mais j'espère que dans votre cœur, vous dites, ah, mais c'est ça maintenant qu'on veut vivre. De grâce. Amen.